La télévision des femmes, Généalogie Vidéo, c'est une télévision qui est créée par les femmes kurdes au Rojava, du coup une province kurde au nord Syrie, qui est en pleine révolution depuis plusieurs années. Et là-bas, il y a une discipline qui s'appelle la généalogie, qui est l'étude des femmes, la science des femmes. Et pour Nevroze, qui est la fête kurde, la fête du printemps kurde, elles ont publié cette petite vidéo à l'adresse du monde entier qui s'appelle « Nous sommes ensemble ». C'est parti, on écoute.
Tu veux réagir ? Tu veux nous dire ce que tu penses de ce qu'on est en train de raconter ? Tu veux nous transmettre des messages ? Retrouve-nous sur notre chat. Pour ce faire, ouvrez une page internet et entrez.
Nous sommes Mujeres Libres. Nous sommes les combattantes de la guérilla kurde. Nous sommes Gulabi Gang en Inde. Nous sommes les femmes partisanes combattant le fascisme. Nous sommes les mères qui luttent. Nous sommes la nature qui nous aime. Nous sommes les femmes révolutionnaires d'hier et d'aujourd'hui. Nous sommes les femmes savantes qui ont été brûlées comme sorcières. Aujourd'hui, nous célébrons cette identité et cet héritage de lutte à travers le monde. Nous sommes des femmes internationalistes du nord et de l'est de la Syrie, au cœur de la révolution du Rojava. Aujourd'hui, nous célébrons Nevroz, qui exprime la lutte pour l'identité kurde, un combat pour la vie et pour la liberté. Nous sommes au début du printemps, nos yeux et nos oreilles s'ouvrent, et nous voyons que la route vers la liberté a pris un nouveau tournant. Si nous regardons l'histoire mondiale, tous les êtres vivants ont dû traverser des conditions de vie extrêmes. À chaque fois, nous avons survécu et nous avons évolué. Nous faisons partie d'un cycle de vie s'étendant sur des millions d'années. Ces moments de crise, comme celui auquel nous faisons face aujourd'hui, dû au virus Corona, ont été l'opportunité de voir le monde sous un nouvel angle et de le reconstruire. Les femmes ici ont construit une révolution et leur auto-organisation à partir des cendres d'une guerre. Nous sommes partout et toujours entourés par la guerre, même si elle se cache derrière des masques différents. Dans des situations exceptionnelles, les failles profondes et l'absence d'éthique humaine révèlent les fondements du système patriarcal où règne la loi du profit. Alors que les institutions étatiques et ces organisations manquent de pourvoir les soins nécessaires pour les personnes touchées, ou profitent même de la situation pour augmenter encore le niveau de contrôle et d'oppression, nous renforçons nos communautés et les liens entre les humains sur toute la planète. Nous agissons comme nous l'avons toujours fait, avec la force de notre société, en pensant aux camps de réfugiés, aux prisons, aux femmes qui sont exposées à la violence domestique, aux personnes sans emploi qui ne peuvent pas acheter le nécessaire pour vivre, ou encore à celles qui n'ont personne pour prendre soin d'elles. Ces temps chaotiques peuvent ouvrir de nouvelles possibilités dans nos esprits. Même si les circonstances exigent de nous de garder une distance, nous trouvons des moyens de rester proches. Nos camarades zapatistes au Mexique nous disent également « Nous appelons à ne pas perdre le contact humain, mais de changer momentanément les manières de nous savoir camarades, de nous savoir frères et sœurs. Pour se rejoindre, les mots et le pouvoir de l'écoute avec son cœur connaissent différents chemins, calendriers et géographies. Et la lutte pour l'humanité est une de ces voies. Alors que le système capitaliste est au bord du gouffre, la seule chose qui peut nous rassurer sommes nous-mêmes. Alors que le monde entier parle de la façon de lutter contre le virus, nous parlons de pourquoi nous luttons. La liberté doit croître en nous-mêmes pour s'exprimer au sein de la communauté, malgré les restrictions. La crise du corona ne peut pas être une porte ouverte au fascisme, au renforcement de la répression, à l'inégalité et à l'isolement. Les États à travers le monde profitent de cette situation en s'appuyant sur la peur des gens afin d'augmenter leur pouvoir. Nous ne pouvons survivre seulement si nous nous organisons collectivement de toutes les manières possibles. Le problème est la solution. Chaque combat porte en son sein de nouveaux savoirs. Notre système d'autodéfense se trouve dans la nature. La vie ne peut pas être prescrite à travers un certain mode de vie ou par la médecine chimique qui nie des milliers d'années de connaissances qui se trouvent dans les mains et dans le cœur des femmes. La santé est avant tout le fait de prendre soin de sa communauté. C'est l'amour pour notre existence et pour la terre sur laquelle nous marchons. La santé, ce sont les valeurs qui unissent la société. C'est l'équilibre de notre biodiversité. La santé de notre société est aujourd'hui confrontée à une nouvelle menace qui est une partie intégrante de ces modes de vie qui nous séparent les unes des autres et qui nous séparent de la nature. Face à cette menace, nous sommes unis, en solidarité avec toutes celles et ceux qui sont décédés et toutes celles et ceux qui luttent jour après jour partout dans le monde. Du fond du cœur, nous vous envoyons un salut révolutionnaire avec amour et respect.
Eh bien, maintenant, nous allons passer à notre deuxième point d'émission pour parler des règles en confinement. Mira, on t'écoute.
Oui, eh ben, moi, j'avais envie de parler de comment on peut se démerder avec ces règles pendant le confinement, parce que, bah, a priori, toutes les personnes qui ont leurs règles risquent de les avoir pendant ce confinement, et qu'il y a deux, trois recommandations particulières pendant ce contexte de pandémie. Du coup, il y a beaucoup de trucs qui circulaient sur des médicaments qui seraient interdits. Ça a l'air assez, ça a l'air de faire dissensus au sein de l'Europe et globalement au sein des différents corps médicaux dans le monde. Du coup, j'ai essayé de recouper des infos pour avoir un truc un peu fiable. Et d'après ce que j'ai trouvé, eh ben, les anti-inflammatoires sont très fortement déconseillés parce que en cas de contamination, en cas de contamination du Covid-19, le système immunitaire crée une inflammation et que cette inflammation crée une défense naturelle contre le virus et permet notamment pour des personnes n'étant pas à risque de ne pas avoir d'aggravation du virus et du coup de pouvoir s'en débarrasser rapidement et facilement. En cas de prise d'anti-inflammatoire, le système immunitaire peut pas créer sa défense contre le virus, ce qui augmente grandement les risques. Donc, en anti-inflammatoire hyper courant qu'on a tendance à prendre en automédication, il y a l'ibuprofène, qui est donc particulièrement déconseillé dans ce contexte. Mais plus globalement, l'ensemble des médicaments contenant des traces d'anti-inflammatoires sont déconseillés. Et en fait, c'est la majorité des antidouleurs qu'on prend couramment. J'ai été en contact avec un épidémiologiste qui s'avère être le père d'une des personnes chez qui je suis confinée, qui est prof à l'université Saint-Quentin-en-Yvelines, et qui disait que globalement, c'était déconseillé de prendre des médocs en auto-médication quoi, et que le seul truc qui peut être un peu safe a priori, c'est le paracétamol, mais là encore il y a dissensus, en tout cas dans les articles qui sont parus sur internet de différents corps médicaux. Il y a également une étude qui a été faite entre 2000 et 2019 par l'Agence nationale française de sécurité du médicament et des produits de santé qui démontre l'impact des anti-inflammatoires non stéroïdiens sur les infections et notamment sur l'aggravation qu'il y a des infections en cas de prise d'anti-inflammatoires. Donc globalement, on n'a pas la solution de prendre des ibuprofènes pour faire passer les douleurs de règles, ce qui est le cas de quand même beaucoup de personnes. L'aspirine est également déconseillée, mais ça c'est globalement parce que ça fluidifie le sang. Donc pour les règles, ça a tendance à augmenter les saignements, donc à pas aller dans le sens d'une réduction des douleurs et du bad mood qui peut s'en suivre. Alors, du coup, moi, j'avais envie de transmettre deux, trois trucs qu'on pourrait faire pour s'éviter des galères et des douleurs. Ce que je propose, c'est, par exemple, de fabriquer sa petite bouillotte, parce que je sais pas si on a toutes des bouillottes sous le coude, Et si vous avez du riz ou du blé ou des lentilles ou même des noyaux de genre d'abricots ou de fruits qui sont propres et séchés, un bout de tissu et du fil et une aiguille, et ben vous pouvez fabriquer votre propre petite bouillotte en fabriquant tout simplement une pochette en tissu avec un tissu qui va pas fondre à l'exposition à la chaleur et avec des mailles un peu serrées que vous remplissez du coup de du riz ou de n'importe quoi d'autre qui va garder la chaleur quand on réchauffe. Et cette petite pochette peut avoir la forme que vous voulez. Vous pouvez en faire un doudou si vous avez envie. Ça fait multi-usage. Et vous pouvez le réchauffer au micro-ondes ou au four pendant quelques minutes. Et ça va faire un petit effet bouillotte. Parce que du coup, la chaleur, ça fait toujours du bien. Je ne vous apprends rien. L'autre truc, c'est autour de l'alimentation. Ça peut... grave jouer des trucs sur faciliter des règles douloureuses. Il y a notamment faire des cures de fer, enfin pas forcément en capsule de fer, hein, mais plutôt penser à manger des aliments qui sont un peu riches en fer, comme les lentilles, comme il y a plein de noix et de trucs comme ça qui sont assez riches en fer. Et ben ça va limiter les risques d'anémie, de manque de fer, qui sont très élevés quand on a ces règles. Et du coup, compensé par l'alimentation, c'est facile et ça fait qu'on garde la forme. Donc les manger plein de trucs vitaminés, ça va aider aussi, parce que ça va permettre une plus grande absorption du fer et ça va redonner la pêche. L'hydratation, comme d'habitude, comme en règle générale, dès qu'on a un truc qui peut nous affaiblir, ça va aider à compenser. Et de toute façon, les règles, c'est une période où on a une tendance à se déshydrater plus forte. Donc, c'est chouette aussi. Il y a tout un tas de trucs qui peuvent aider dans l'alimentation et qui peuvent permettre de garder un peu plus la forme, ce qui est chouette parce que dans ce contexte de confinement, on a tendance à de toute façon pas être très en forme, donc avoir en plus une semaine sur quatre où on est en baisse de morale, c'est vraiment pas ouf. Il y a un autre truc dans la bouffe qui peut aider, c'est d'essayer de manger sain. Encore une fois, c'est un conseil un peu chiant dans ce contexte parce que clairement, se faire des gros burgers, c'est cool, mais globalement... essayer de manger, essayer de faire gaffe à son transit, c'est cool parce qu'il y a quand même plein de personnes qui ont, quand elles ont leurs règles, la chiasse. Donc, manger un peu des trucs, plutôt des sucres lents, tout ça, ça va aider à réguler son transit, éviter la junk food. Bon, c'est toujours à peser selon c'est quoi qui vous remonte le moral, hein, parce que ça... Enfin, c'est, faut toujours faire le pour et le contre quand même. Un autre truc que je savais pas trop et que j'ai découvert dans un bouquin que Claude va vous présenter juste après, c'est que l'alcool, pour 90% des personnes qui ont leurs règles, a une forte tendance à prolonger les douleurs. Donc l'alcool, pareil, est pas hyper conseillé pendant la période des règles. Et du coup, le livre dans lequel j'ai découvert ça, ça s'appelle « Notre corps, nous-mêmes ». Et Claude, je te propose de le présenter brièvement, si ça te va.
« Notre corps, nous-mêmes », c'est un livre qui était paru dans les années 70, en 74, si je ne me trompe pas. Et c'est un livre qui avait été écrit au départ en anglais par le Collectif pour la santé des femmes de Boston. Et c'est un collectif un peu d'éducation populaire autour de la question de la santé qui avait été traduit en français. Et il avait jamais été réédité depuis, donc il y avait quelques personnes qui en avaient un exemplaire, et c'était un peu une bible sur la question de la santé pour les femmes. Et il vient d'être réédité, il est sorti 15 jours après, avant le confinement. Il a été édité et réactualisé en français par les éditions Hors d'atteinte. Et il a été du coup retravaillé par un collectif qui s'appelle NCNM. Il s'appelle toujours « Notre corps, nous-mêmes » et il est disponible dans toutes les bonnes librairies. Attention, ne le commandez pas sur Amazon. Vous tuez les librairies quand vous commandez des trucs sur Amazon. Attendez la fin du confinement pour vous procurer ce livre formidable de 384 pages à 25 euros. Voilà.
Merci. Du coup, j'avais envie de passer aux huiles essentielles qui, justement, pour se passer des médocs, peuvent être une super bonne alternative. Je pense, enfin, il y a plein de différentes recettes qui peuvent marcher, qui peuvent limiter les douleurs ou accélérer la période de règles, ou plein de choses comme ça, qui ont différents effets sur le corps. Je vais pas toutes les lister parce que déjà, je connais pas grand-chose en huiles essentielles et que, en plus, il y a des sites hyper bien sur Internet qui sont très faciles à trouver, qui référencent tous les mélanges d'huiles essentielles et qui, je suis tombée sur plusieurs sites qui citaient des études médicales qui ont été faites en double aveugle, nanana. Et donc, qui sont un peu carrés sur leur protocole de test, tout ça. Mais basique qui fait du bien, c'est de se faire un massage sur le bas-ventre avec quelques gouttes d'estragon, d'huile essentielle d'estragon, diluée dans de l'huile végétale, une neutre. Donc, ça peut être l'huile de calendula, d'amande, d'argan, de noyau d'abricot, ce que vous avez sous le coude. Et en massage sur le bas-ventre, ça a un effet antispasmodique, donc qui va très clairement apaiser les spasmes de douleur. Sachant que le massage tout court, c'est assez aidant. Voilà pour les huiles essentielles. Et je crois que j'avais globalement envie de faire un petit rappel de trucs qui peuvent faire du bien pendant les périodes de règles, parce que c'est hyper important de... Genre, juste se faire du bien à son corps et faire en sorte, enfin, pas forcément se faire du bien à son corps, mais en tout cas faire en sorte de se faire du bien à soi, juste pour pas focaliser sur les douleurs et en restant chez soi, c'est quand même plus difficile de faire fi de ces douleurs-là. Du coup, ben, rien que se prendre un bain si vous en avez un ou une douche chaude, la chaleur, ça aide. Faire du yoga si vous aimez bien faire ça, pareil, c'est un truc qui peut vachement aider à gérer les douleurs. Il y a plein d'études qui prouvent que, a priori, jouir, ça aide à faire diminuer les douleurs sur une période. En tout cas, je sais plus exactement de combien de temps, mais ça aide à diminuer les douleurs de règles. Bon, je rappelle bien sûr qu'on peut se faire jouir seul, qu'il faut faire particulièrement attention au consentement dans ce contexte de confinement, parce que, ben, c'est difficile d'être enfermé avec les gens. Enfin bref, la sexualité partagée dans un contexte de confinement, c'est une question pas simple. Mais globalement, c'était juste de glisser, se faire jouir. Quoi d'autre ? Faire de l'activité physique, pareil, ça peut aider à faire que le corps il pense à autre chose et que du coup, les douleurs, elles sont graves réduites. Mais il faut éviter... le gainage et la muscu, parce que toutes les tensions et crispations, ça augmente les spasmes. Du coup, ben, ça a un effet complètement contre-productif pour ça. Voilà, voilà. Bah, c'était mon petit point autour de avoir ses règles en confinement. J'espère que c'était pas trop brouillon. Et puis, bah, faites-vous du bien et puis courage.
Elle a raté la mayonnaise, on espère encore qu'elle se taise. Elle a 36 idées par heure, quand elle a pas le fou rire, elle pleure. D'un seul coup, elle est irascible, puis elle devient hypersensible. Elle dit que ça la tarabuste, et elle prétend que c'est injuste. Elle rouspète, elle ronchonne, elle peut plus supporter personne. C'est la faute aux hormones, Simone, c'est la faute aux hormones. C'est la faute aux hormones, Simone, c'est la faute aux hormones. C'est vers 12 ans que ça débarque, elle accepte plus les remarques. Elle désespère l'entourage, en tenue de ski sur la plage. On ne peut plus, et c'est un comble, la plaisanter du bout de l'ongle. C'est l'éternelle féminine qui fleurit en cette gamine. Elle était pourtant bien mignonne, ça y est, elle nous empoisonne. C'est la
la faute aux hormones, Simone, c'est la faute aux hormones. C'est la faute aux hormones, Simone, c'est la faute aux hormones. Quand c'est devenu la routine, qu'elle y a mis une sourdine, on se croit sorti de l'auberge, c'est alors qu'elle nous submerge de lait, de tétine, de couche. Ah non, il faut plus qu'on y touche, elle se prend pour un tabernacle, on devrait crier au miracle. Elle s'arrondit, elle ronronne, elle est jamais là quand on la sonne. C'est la faute aux hormones, Simone, c'est la faute aux hormones. C'est la faute aux hormones, Simone, c'est la faute aux hormones. Quand enfin plus rien ne s'oppose à ce qu'elle nous fasse une pause, n'espérez pas qu'elle se calme, on peut lui décerner la palme de la plus tranquille emmerdeuse. Elle dit qu'elle veut être heureuse, elle dépense, elle dilapide, elle devient extra lucide. Paraît que c'est la testostérone qui fait les vieilles amazones. C'est la faute aux hormones, Simone, c'est la faute aux hormones. C'est la faute aux hormones, Simone, c'est la faute aux hormones. Elle fait tourner le lait des vaches, tout ce qu'elle touche, elle le gâche. Elle est folle, elle est hystérique, comprend rien à la mécanique. D'ailleurs, c'est une pécheresse, elle peut même pas dire la messe. L'autorité, elle la sape, elle désespère même le pape. Et pourtant, elle se cramponne, elle manifeste, elle s'époumonne. C'est la faute aux hormones, Simone, c'est la faute aux hormones. C'est la faute aux hormones, Simone, c'est la faute aux hormones. C'est pourtant la moitié du monde, il a fallu qu'elle nous ponde, qu'elle nous abreuve, qu'elle nous torche, qu'elle nous dise qu'on n'est pas si moche, qu'elle nous attende pendant des heures, qu'elle nous console quand on pleure, qu'elle nous veille quand on est malade, qu'elle avale toutes nos salades. Si un jour elle nous abandonne, on trouvera la vie monotone. Vive les hormones, Simone, et vive les hormones. Et vive les hormones, Simone, et vive les hormones. Et vive les hormones, Simone, et vive les hormones. Et vive les hormones.
C'est parti.
Et maintenant, on va se parler un peu du médico-social et de l'ASE, hein, qui sont des espaces oubliés comme d'autres. Hier, Macron... pendant son allocution, a essayé d'oublier personne. Il a essayé de pas commettre l'erreur de la représentante du gouvernement qui parlait des enseignants qui travaillaient pas. Et donc, il a quand même nommé le médico-social. Mais effectivement, le médico-social, l'ASE, la psy connaissent aujourd'hui des conditions très difficiles. Et l'interview qu'on va s'écouter, c'est une interview de Pascal. Et avant cette interview, elle me disait que les collègues de tous les métiers, de toutes fonctions, lui disaient « dis tout ». Car ici, on souffre, c'est le bordel, c'est l'angoisse individuelle et collective. Il n'y a pas de moyens. Et il faut tenir, mais il va falloir aussi penser à l'après. Donc, JB, bah, tu peux passer l'interview.
Vas-y, c'est parti.
Faut que tu te présentes un petit peu. Et effectivement, donc là, c'est l'interview de Pascal, qui est au secteur santé, psychiatrie, action sociale des CMA. Et Pascal, on te demande un peu un point de situation sur le médico-social aujourd'hui, dans la Loire-Atlantique, en région Pays de la Loire et même en France en général.
Bonjour, donc sur tous ces secteurs, que ce soit psychiatrique, médico-psy et protection de l'enfance, bah, c'est la colère qui gronde, la colère des travailleurs sociaux, des psys. On manque de tout, on manque d'équipement, de masques, de gel face au virus. On rejoint le reste de la population, des personnes qui ont contact avec le public sur le manque du tout où rien n'a été évalué au niveau de l'État. D'énergie et d'engagement, hein, chacun déploie avec ce qu'il peut, comme il peut, mais tout le personnel est présent. Ils souhaiteraient pour gérer leur propre angoisse, qui est, c'est ce qu'ils demandent le plus, c'est qu'il y ait des tests. Des tests quand on arrive travailler et quand on sort, pour pas contaminer ni sa famille, ni les enfants ou les patients. Ça, c'est quelque chose qui est arrivé en premier. C'est vraiment un premier sentiment qu'ont toutes les équipes, c'est d'avoir été oubliées. Alors, il est vrai aussi que la protection de l'enfance, depuis hier, s'est fait un peu entendre, puisqu'il va être permis aux travailleurs sociaux que leurs enfants puissent accéder à l'école et en tout cas à différents modes de garde. Donc ça, c'est tout à fait nouveau depuis hier. Et un certain nombre d'enseignants vont se mettre en lien avec les différentes structures. C'est important de le noter, c'est un petit pas en avant. Sur la question de ce qui manquerait le plus à des personnes qui sont confinées par obligation, que ce soit les patients en pédopsie ou chez les adultes, ou dans le médico-social et la protection de l'enfance, c'est comment on met de l'extériorité à l'intérieur. Les CMP sont tous fermés, il y a quelques collègues qui ont encore des permanences, il leur a été demandé d'assurer ces permanences pour les urgences, pour ne pas saturer les urgences de l'hôpital. Ils peuvent dire que leur difficulté, c'est d'accéder aux familles, des familles en très grande souffrance, qui n'ont pas les moyens de faire tiers, même si certains se déplacent, vont faire des entretiens auprès des personnes. Chacun et chacune travaille en visioconférence comme il peut, avec certaines consultations qui peuvent être possibles comme ça, on va dire. Le confinement est partout. La difficulté dans la protection de l'enfance, c'est aussi le milieu ouvert, puisque les travailleurs sociaux ne peuvent pas accéder évidemment aux familles, aux différentes familles. On sait aussi que des familles en grande précarité, enfermées, cela va créer de grandes difficultés, un certain nombre de violences, des violences intrafamiliales. Donc on s'attend aussi à des placements d'enfants en urgence en internat. La difficulté, c'est que on n'est pas prêt, ni les uns ni les autres, à accueillir ces urgences-là. Rien n'a été évalué auparavant. Chacun essaie de bricoler de son côté pour accueillir la souffrance de l'autre. Ce qui se passe aussi dans tous les lieux, hein, quand le mot désespoir, dans le mot désespoir, il y a le mot espoir, il y a des projets. D'abord, il y a une solidarité incroyable entre les équipes, que ce soit en intra ou en extra. Hein. Chacun vient mettre un peu sa pierre à l'édifice. On s'aperçoit que les petits riens du quotidien amènent du baume au cœur à tout le monde. Alors, comment mettre du dehors dedans ? Eh ben, c'est d'être en lien. Alors, d'être en lien, ça veut dire que même quand on est chez soi, on téléphone à celui ou à celle qui est dedans. Soit dans une famille d'accueil, soit dans un gîte d'enfants, soit à l'hôpital. Du dehors, dedans, que ça circule. La visio, c'est important aussi. On s'aperçoit que dans nos consultations, par exemple, il y a l'oreille, mais il y a l'œil. Alors, on peut aussi écouter avec les yeux. C'est très important. On s'aperçoit que les personnes sont plus attentives. Ça aussi, c'est du dehors, dedans. Le quotidien qui ritualise dedans. C'est-à-dire que même si je peux pas sortir dehors, je sais ce que j'ai à faire dans la journée. Le nombre de bénévoles, d'associations qui mettent des bénévoles à disposition, entre guillemets, à disposition sur des projets, je pense à une des MEX au niveau de Nantes où les CMEA travaillent auprès des équipes autour de cabanes et de jeux collectifs. Extrêmement important, des personnes qui viennent du dehors et qui travaillent au-dedans. Voilà, c'est tous ces projets. Des projets de films, hein, comment ce qui se passe à l'intérieur des institutions, des personnes qui se mettent à mettre en place des médiations parce qu'il n'y a plus rien. C'est ça le problème, c'est que quand tout s'est arrêté en intra, et surtout les collègues de l'hôpital, des hôpitaux psy, quand il n'y a plus de médiation, on est encore plus confiné. Donc trouver à bricoler intelligemment, c'est ce qui nous reste encore d'humain dans toutes nos institutions.
Ok, eh bien la suite, la rubrique qui suit va être consacrée à la zététique. On souhaitait au groupe zététique revenir un petit peu sur un sujet sur lequel on avait fait un article qui est sur le blog covid19.cma-pdll.org et qui concernait un traitement à la chloroquine et à l'hydroxychloroquine. une tentative de traitement qui est à l'essai contre le coronavirus. Alors, je refais un rapide... alors d'abord, peut-être je peux redire qu'est-ce que c'est que la zététique, parce que c'est pas forcément super limpide. Et pour ça, on avait une petite présentation toute faite que je vais vous lire. Faire de la zététique, ça consiste à s'approprier et démystifier les outils de la méthode scientifique et s'en servir pour investiguer le réel, pour penser les informations qui nous parviennent, pour tâcher de faire un peu d'autodéfense intellectuelle. En ce sens, et comme on la conçoit, c'est pleinement une démarche d'éducation populaire. Augmenter ensemble nos capacités de compréhension du réel, de ce qui nous entoure, pour pouvoir agir dessus. Concrètement, on va s'appuyer sur des outils et des méthodes pour mettre à l'épreuve les affirmations qui nous semblent douteuses, mais aussi nos propres certitudes, afin de tâcher de mettre le doigt sur les trucs foireux. Faire de la zététique, c'est essayer de comprendre comment on pense ce qu'on pense, comment on croit ce qu'on croit. Voilà, alors c'est une définition parmi d'autres, mais enfin, c'est la nôtre. Et du coup, dans ce processus autour de la zététique, on s'intéresse pas mal à la question de la méthode scientifique et du concret de la science, de comment est-ce qu'elle se passe. On avait fait un petit article sur l'hydroxychloroquine. Je vais refaire un petit topo rapide sur qu'est-ce que c'est que ce truc-là et c'est quoi les essais qui ont été faits, les essais cliniques qui ont été faits. Mais avant, je voudrais introduire un peu pourquoi est-ce qu'on revient dessus. Il nous semble que ce qui est en train de se passer autour de l'hydroxychloroquine en ce moment, c'est un bon exemple pour essayer de décortiquer un petit peu le fonctionnement et les dysfonctionnements de la science. Voilà, c'est aussi un bon exemple pour rentrer un petit peu dans la tambouille des essais cliniques, de la recherche et de comment est-ce que ça se passe, pour essayer de la démystifier un petit peu. Voilà. Alors, la chloroquine, c'est un antipaludique. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on s'intéresse à ce machin-là? C'est que en Chine, il y a des chercheurs et des chercheuses qui, en février, ont publié un communiqué en disant que la chloroquine était efficace contre le coronavirus in vitro. C'est-à-dire qu'on fait des petits tests où on balance la molécule dans un tas de virus, dans des éprouvettes, et on voit ce qui se passe. Et de fait, ça avait l'air efficace. Du coup, ils ont enchaîné avec un essai clinique qui portait sur une centaine de patients, et ils ont publié que c'était efficace sans trop en dire plus, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de données réelles dessus. Suite à ça, il y a la médiatisation a démarré à ce moment-là, suite à une réaction du professeur Didier Raoult. Alors, dans l'absolu, on pourrait se dire, c'est pas important de savoir c'est qui. Parce que dans la science, en fait, c'est les données qui comptent et c'est pas spécialement qui parle. On pourrait se dire ça. Mais en même temps, peut-être ça vaut quand même le coup de le présenter. Parce que vous allez voir, après, ça permet de comprendre certains aspects. Il s'agit de quelqu'un qui est très renommé sur le plan de l'infectiologie, c'est une des personnes qui publie le plus au monde, qui est le plus cité au monde dans ces domaines-là, etc. C'est quelqu'un qui est très reconnu, qui est aussi très controversé pour certaines de ses positions qu'il a prises par le passé. Donc cette personne, elle fait une déclaration publique en disant qu'on a trouvé le remède. Voilà, que c'est la fin de partie pour le coronavirus et que lui, il demande à lancer un essai clinique sur un dérivé de la chloroquine qui est l'hydroxychloroquine et que lui-même a participé à découvrir, enfin à mettre au point plutôt. Bon, du coup, il démarre à ce moment-là une étude, un essai clinique, c'est-à-dire qu'il réunit un petit nombre de patients sur lesquels ils vont faire des essais du traitement à l'hydroxychloroquine. Du coup, tout ça c'est résumé dans l'article, je ne vais pas forcément revenir précisément dessus. On avait émis un certain nombre de critiques, alors on n'était pas les seuls du tout, hein, on s'était appuyé sur aussi ce qui était dit par ailleurs, mais il y a un certain nombre de critiques qui se sont levées à la fin de l'étude, autour du 15 mars. Il a publié les résultats dans une vidéo, il les a pas publiés d'abord dans une revue scientifique. Il a annoncé les résultats en vidéo, en disant que la publication allait arriver. Et on avait donc émis un certain nombre de critiques à ce moment-là, notamment, sans être exhaustif, sur le fait que la méthode de publication était pas très sérieuse et posait problème. Et parce que en annonçant des effets absolument fantastiques et spectaculaires de cette manière, un des risques, c'est que les stocks d'hydroxychloroquine, parce que le médicament était en vente libre à ce moment-là, il est passé depuis sur ordonnance, Ça posait le problème de l'automédication massive et pas très pas encadrée. C'est un médicament qui est dangereux parce que la dose létale, elle est proche de la dose de traitement. C'est-à-dire que la dose de traitement, elle est autour de 600 mg par jour et la dose létale, elle est à 2 grammes par jour. Donc trois fois la dose de traitement suffit à commencer à faire des effets létales. Voilà, donc ça posait un peu problème, et puis de fait, les stocks dans plusieurs pays ont été un petit peu pris d'assaut suite à sa déclaration. On avait aussi émis des critiques sur le fait que publier des résultats aussi, enfin, de manière en disant que c'était spectaculaire avec un si faible effectif, c'est-à-dire que c'est un essai qui concerne 24 patients qui reçoivent le traitement, et ben c'est un petit peu, ça nous semblait un petit peu, disons, osé, voire même du côté de la manipulation, parce que et donc c'est ce qui nous semble avoir été confirmé par la suite. Son objectif à ce moment-là, c'était de faire en sorte que il y ait beaucoup plus d'essais cliniques qui se fassent sur l'hydroxychloroquine et que ce soit considéré comme un médicament de premier plan au même titre que les 3-4 autres traitements qui sont testés en ce moment massivement. Et ça a marché parce que suite à ça, il y a eu pas mal d'études qui se sont qui ont démarré. Bon. Depuis, il y a quelques jours, les résultats détaillés de l'étude qu'ils ont menée à l'IHU de Marseille, là, menée par Guy Raoult, elles ont été donc publiées en bonne et due forme. Alors, ça n'empêche pas, enfin, et même ça a permis de soulever un certain nombre de critiques et de peut-être modérer un peu, sans dire que c'est inefficace, modérer un peu l'enthousiasme qu'il y a pu avoir autour de ce traitement. C'est-à-dire que les résultats qui sont annoncés sont au minimum douteux. Alors, pourquoi ? C'est là qu'on va rentrer un petit peu dans la tambouille de la recherche et des essais cliniques. D'abord sur la question de l'effectif. Donc l'essai, il se passe à Marseille, il recrute 24 patients volontaires, 26 patients volontaires, et il compare les résultats, enfin il compare la charge virale. Alors, je vais vous expliquer après ce que c'est que la charge virale, mais il compare la charge virale de ces patients à la charge virale de patients qui reçoivent pas le traitement dans deux autres hôpitaux à Nice et à Avignon. Et ça, c'est ce qu'on appelle le groupe témoin, c'est-à-dire le groupe qui ne reçoit pas le traitement, ils sont 16. C'est aussi très faible. C'est aussi très peu de personnes. Le problème qui est lié à l'effectif, c'est que le groupe est annoncé comme 26 patients, et en fin de compte, dans les essais, ils ont exclu 6 des 26 patients. Ils les ont exclus parce qu'il y en a un qui est mort, parce qu'il y en a 3 qui sont partis en soins intensifs, parce qu'il y en a un qui avait des nausées et qui a souhaité arrêter, et une autre personne qui est sortie du protocole sur sa décision, mais sans explication ou non. En tout cas, il n'y a pas d'explication publiée. Autrement dit, on a un peu plus d'un cinquième de l'effectif qui sort en cours de traitement et ces résultats sont ignorés dans l'étude. C'est-à-dire qu'ils ne les prennent pas en compte, ils les excluent de leurs données. Donc en gros, on a 6 échecs, parce qu'quand on fait un essai clinique, des gens qui sortent du protocole, surtout pour des raisons comme ça, décès, réanimation, soins intensifs, hein, bon, eh ben on les prend en compte, on se dit que c'est des échecs, et eh ben pas eux. Donc on se retrouve finalement avec un effectif de 20 personnes qui reçoivent le traitement en ayant exclu 6 échecs.
Au moins 4, sûr.
Eh ben méthodologiquement, on compte même ceux qui partent pour d'autres raisons, oui. En fait. Bon après voilà. C'est des échecs méthodologiques au moins. Et en principe, en tout cas, il y a d'autres exemples, par exemple de tests de traitement du VIH, qui sont où la méthode consiste à considérer tout départ du protocole comme un échec. Et c'est sur ces bases-là qu'on étudie l'efficacité. Quoi. Et par ailleurs, ça veut dire que les autres tests qui sont faits en ce moment sur d'autres médicaments utilisent ce standard de la recherche qui consiste à tout considérer comme un échec, toute sortie comme un échec. Du coup, bah, ça biaise un petit peu ces résultats-là. Voilà. Ça, c'est une première limite. La deuxième limite, c'est qu'ils annoncent au début de leur intention, quand ils demandent l'autorisation de faire l'étude, ils annoncent qu'ils prennent comme indicateur principal la charge virale. La charge virale, c'est combien est-ce qu'il y a de répliques du virus dans l'organisme, dans le plasma, en fait, dans la partie de l'organisme. Et on va mesurer ça en se disant que ce qu'on cherche à faire, c'est à faire diminuer la charge virale, faire diminuer les nombres de la présence du virus dans l'organisme, et que ça va soigner. Alors très bien, Seulement, ils annoncent aussi qu'ils vont utiliser d'autres indicateurs, c'est-à-dire qu'ils vont regarder comment est-ce que la pneumopathie elle évolue, est-ce que les gens ils sont en détresse respiratoire ou pas, comment les autres symptômes se passent, les maux de tête, etc. Tous ces autres aspects cliniques, en fin de compte, ils les prennent pas en compte. C'est-à-dire que ils les annoncent comme on va les prendre en compte au cours de l'étude, et puis ils changent les règles au fur et à mesure, et finalement ils publient rien dessus. C'est un peu problématique. Parce qu'on peut supposer qu'il c'est pas si tant que ça une réussite, à minima. En tout cas, ça demande des compléments. Voilà. Une autre limite méthodologique, c'est que, et ça demande de rentrer pas mal dans la tambouille, on se retrouve avec des groupes qui ne sont pas homogènes. C'est-à-dire que les gens qui ne reçoivent pas le traitement et les gens qui reçoivent le traitement n'ont pas le même profil selon un certain nombre d'aspects, et notamment selon l'âge. Dans le groupe de 16 patients qui ne reçoivent pas le traitement, on a deux enfants de 10 ans, un enfant de 12 ans, un enfant de 14 ans, une personne de 20 ans, deux personnes de 23 ans. On a 6 personnes qui sont 7 personnes qui ont moins de 25 ans. Là où dans le groupe qui reçoit le traitement, on a des personnes globalement beaucoup plus âgées et notamment une seule personne qui a moins de 25 ans. Voilà. Et ça, ce que ça peut induire, c'est un facteur de confusion, c'est-à-dire que c'est un autre élément qui n'est pas pris en compte et qui peut expliquer une partie des résultats. Par exemple, on pourrait supposer que, je sais pas moi, si la charge virale diminue beaucoup moins chez les jeunes, même s'ils sont plus asymptomatiques, ça explique les résultats où on a une charge virale qui dure pendant plus longtemps chez les personnes qui reçoivent pas le traitement puisqu'elles sont plus jeunes et pas chez les personnes qui reçoivent le traitement puisqu'elles sont plus vieilles. C'est une hypothèse que je fais qui n'est pas du tout fondée, mais c'est simplement de dire ce biais. C'est un biais possible. Il y a un facteur de confusion qui n'est pas élucidé là dans la procédure. Voilà. Ensuite, et ça c'est vraiment un truc qui est problématique. Quand on regarde un petit peu comment est-ce qu'ils mesurent la charge virale, c'est-à-dire comment c'est leur indicateur principal de voir est-ce que les gens ont encore une charge virale pour savoir s'ils sont encore malades. Quand on regarde jour après jour, est-ce qu'ils sont malades, est-ce qu'ils sont plus malades, eh bien on se rend compte que il y a plein de faux négatifs. C'est-à-dire que le test qu'ils utilisent produit des moments où on ne détecte pas de charge virale, alors que le lendemain on détecte une charge virale hyper forte et que la veille aussi. Ça laisse à penser que c'est des faux négatifs, c'est-à-dire que le test ne fonctionne pas à 100%. Et le problème, c'est que l'essai dure que 6 jours, et donc que sur 6 jours, il se peut que le dernier jour, on a plein de patients qui ont reçu le traitement qui sont négatifs au test. On peut difficilement savoir il y a combien de faux négatifs dans cet échantillon, quoi, dans ces tests-là. Autrement dit, on peut se retrouver avec finalement peut-être des résultats qui sont beaucoup moins spectaculaires parce qu'il y aurait ne serait-ce que 3 faux négatifs dans le test du dernier jour. Ça remonte considérablement le nombre de personnes malades à la fin du traitement. Et il y a un autre problème méthodologique, qui est le fait que ils obtiennent l'autorisation les 5 et 6 mars, ils obtiennent une autorisation européenne et française le 5 et 6 mars, pour lancer l'étude. C'est une étude qui porte sur 14 jours, et ils publient les résultats le 15 mars, en vidéo. Autrement dit, ils ont fait l'étude pendant 9 jours, au maximum. Et les résultats qui sont donnés, c'est-à-dire le détail du test, ils ne durent que 6 jours. C'est-à-dire que quand on regarde qu'est-ce qu'ils ont fait sur chaque patient chaque jour, ça dure que 6 jours. Donc du coup, ils ont encore changé les règles en cours de route. Ils annoncent une étude, pendant 14 jours, on va regarder l'évolution, etc. Et ils le font que sur 6 jours. Voilà. Autrement dit... il reste un truc, pardon. Il reste un autre truc, et pas des moindres. Cette étude, elle a été publiée dans une revue à comité de lecture. C'est-à-dire que c'est une revue qui parle d'épidémiologie, d'infectiologie et compagnie. Et puis... dans laquelle il y a des gens qui vont relire, qui sont aussi des épidémiologues, des infectiologues, des chercheurs dans différents domaines, qui vont relire l'étude et faire un certain nombre de critiques sur la méthode, demander des compléments, et puis après éventuellement publier. Il se trouve que cette revue, une des personnes qui mène l'étude fait partie du comité de rédaction. Et rien que ça, c'est un biais terrible. C'est un biais qui fait que, on ne peut que relativiser la portée de cette étude. Alors tous les biais cumulés, voilà.
Ça en fait pas mal.
Ça en fait pas mal. Il en reste d'autres, des biais qui demandent un peu de rentrer dans la tambouille que je me maîtrise pas en plus forcément. J'ai pas forcément les éléments pour les détailler. Mais voilà, j'espère que ça donne un petit peu une idée de pourquoi est-ce que pourquoi cette étude elle est quand même considérablement remise en cause. Et derrière, ce qu'on voulait mettre, ce qu'on voulait exemplifier, c'est le fait que la science, dans comment elle fonctionne, c'est une méthode autocorrective, je sais pas comment on dit. C'est-à-dire que c'est pas une étude scientifique qui a du poids. C'est plusieurs études étalées dans le temps qui vont faire science, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a Jean-Michel, chercheur en truc qui craque son slip et qui nous fait des études claquées au sol, que ça remet en cause toute la science. La science, elle se construit parce qu'il y a une relecture par les pairs, parce que il y a d'autres études qui sont répliquées pour vérifier est-ce qu'on obtient les mêmes résultats, etc. Et c'est quand même assez différent de ce que le professeur Didier Raoult, qui est la personne qui s'est médiatisée autour de cette étude, qui est pas du tout la seule en fait à la mener, mais bon, c'est la personne médiatique, et qui défend une science des élites, une science des chercheurs élites, c'est-à-dire de l'intuition d'une personne qui va révolutionner la science. Et ben, c'est très 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 loin de la manière dont la science fonctionne et de la manière dont on conçoit la science aux groupes zététiques, mais pas que. Et donc, on voulait le souligner. Je sais pas si j'ai été clair, s'il y a des réactions, des questions.
C'était très très clair.
Il y a des gens qui ont envie de réagir sur la méthode scientifique, la science, la tambouille, les biais.
On peut passer une petite musique et ça laisse le temps aux gens de réagir.
Tu peux raconter l'histoire de la puce, non ?
Oui, on peut raconter l'histoire de la puce, mais on peut raconter l'histoire des moutons aussi. On passe une musique et on raconte ça après ?
Ouais.
Oui.
Allez,
c'est parti.
Station spéciale de la commission du même nom, la Java des bombes atomiques. Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3000. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant leur repas, la tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Tonton, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme on a mes consciences. En détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant, les luttes immédiatement, chef du gouvernement.
Ça c'est... Attends.
Attention, je suis parti. Vous écoutez toujours Radio Sans Nous. On se disait que c'était aussi le moment de vous rappeler que si vous aviez des sons à nous transmettre, que vous vouliez qu'on les diffuse à la radio, vous pouvez nous les envoyer. De même, s'il y a des choses, vous dites « Ah, ça serait bien que ça passe, j'ai envie de faire passer cette information, mais je l'ai pas en son », vous pouvez envoyer les textes et on peut les mettre en son. voilà, vous pouvez contribuer, alors que ça soit sur le chat là où on explique un peu sur le blog covid19.cma-pdll.org comment ça marche, que par adresse mail à radio.sansnous@cma-pdll.org. Voilà. Et du coup, pour continuer un peu là sur sur l'histoire de sur le chapitre zététique, il y a une petite histoire. C'est l'histoire de quelques scientifiques qui vont au Canada pour un congrès. Et voilà, du coup, bah il y a le chemin pour arriver. Là, ils sont arrivés de l'aéroport, ils doivent prendre un train pour se rendre au congrès. Et là, ils sont 4-5 scientifiques dans le wagon. Première fois de leur vie qu'ils arrivent au Canada. Ils regardent par la fenêtre. Et puis, au loin, dans un champ, il y a un mouton noir. Alors, il y a un premier scientifique qui prend la parole et qui dit « Tiens, au Canada, tous les moutons sont noirs. » Alors là, il y a le deuxième scientifique qui revient sur le premier qui dit « Non, cher confrère, je ne pense pas que vous puissiez dire ça. On pourrait dire que au Canada, il y a des moutons noirs. » Alors là, il y a un autre collègue qui commence à parler tout de suite et dit « Non, cher collègue, je ne pense pas que vous pouvez vous avancer à dire ça. On peut dire que au Canada, il y a au moins un mouton noir. » Le dernier scientifique prend la parole à son tour et dit « Non, je ne pense pas que vous puissiez affirmer ça. Je pense qu'on peut dire que au Canada, il y a au moins un mouton dont la moitié du corps est noire. » Voilà, c'est l'histoire des scientifiques qui arrivent au Canada.
Merci. Ouais, et il y a une deuxième histoire.
Ça manquait de rire à la fin, c'est pour ça. Histoire. Alors, là, c'est pas scientifique, hein, c'est un éleveur. Hein. Mais bon, ça va interroger la démarche scientifique quand même. C'est un éleveur de puces. Et l'éleveur de puces, il arrive avec sa puce, il montre aux gens en disant « Regardez ma puce, je l'ai élevée. À chaque fois que je tape dans les mains, elle saute. » Ah ouais, ça, comment ça se fait? Ah bah, la puce, elle entend, hop, et là, elle saute. Et elle entend par les pattes. Bon, bah oui, d'ailleurs, on va expérimenter. On va couper les pattes de la puce, et regardez, elle saute plus. Donc, la preuve, c'est que la puce entend par les pattes. Voilà. Ma petite histoire de puce. Le comble de l'histoire, d'ailleurs, c'est qu'a priori, effectivement, les capteurs sonores de la puce sont bien sur les pattes.
Tes sources, Régis, tes sources.
Alors, je m'en rappelle plus. C'est pour ça que j'ai mis le conditionnel pour être sûr, a priori. Toi, j'ai mis un conditionnel en disant, mais voilà.
Mais c'est pas impossible, mais d'accord.
Mais c'est pas impossible, tout à fait. Mais ça montre effectivement la démarche d'éduction, induction, comment on peut tout démontrer assez facilement là.
Mais surtout si on prend pas attention, si on prend pas gaffe au biais. C'est ça, et c'est ça tout le travail de la zététique, c'est, et de la méthode scientifique en général, hein, c'est d'essayer de mettre le doigt sur ce qui va nous induire en erreur, sur tous les biais dans un protocole. Et par exemple, tiens, j'en rajoute un qu'on n'a pas nommé tout à l'heure sur l'hydroxychloroquine, le biais, mais quasi le biais principal de cette étude, une critique qui a été mise dès le début, c'est que c'est pas un essai en double aveugle. C'est-à-dire que les personnes qui reçoivent le traitement savent qu'elles reçoivent le traitement, les personnes qui ne le reçoivent pas savent qu'elles ne le reçoivent pas, et les personnes qui l'administrent savent qu'elles l'administrent, à qui, et voilà. Donc ce que ça induit plusieurs biais.
On a perdu Manu qui nous disait que c'est un des effets, c'était que ça n'excluait pas l'effet placebo. Voilà.
Oui, je sais pas si on a bien entendu l'histoire de la puce, mais tant pis, hein. Il paraît que peut-être que c'était pas très entendable.
Je sais pas non plus si on peut dire qu'on a perdu Manu. Voilà. Bon, techniquement parlant, on n'est pas au même endroit. Voilà, et je sais pas si on l'a perdu. Je pense que je suis toujours capable de le localiser, mais bon, voilà. Après, c'est...
Et t'es capable de me localiser alors que j'ai pas dit où j'étais. Ça, c'est fort.
T'as vu ça quand même. Hein. Ouais. À peu près à 100 mètres près, je pense. Ouais.
Peut-être, je ne sais pas si vous aviez envie de continuer cette discussion, mais on avait aussi, en fouinant sur Internet, trouvé un communiqué de AIDS, une association qui travaille sur la question du sida, et qui revenait sur cette étude. Peut-être on pourrait se l'écouter.
Allez.
Ouais.
Alors, c'est parti.
traitement contre le Covid-19, la lutte contre le sida montre que l'éthique et la rigueur scientifique sont les meilleurs alliés contre les pandémies. Communiqué de AIDS, paru le 24 mars 2020. L'emballement médiatique pour une stratégie thérapeutique a existé dans l'histoire du sida, parfois pour le meilleur, parfois pour le pire. AIDS appelle à la plus grande prudence face à de potentielles pistes de traitement invalidées par les chercheurs et les chercheuses. Le génie seul contre tous n'existe pas, pas plus que le complot de tous contre un seul. Ce qui est efficace, c'est la démarche collective et la discussion argumentée. Parmi les enseignements à retirer de l'épidémie du sida, il y a la place des malades dans la définition des stratégies de recherche à mettre en œuvre et des stratégies thérapeutiques à recommander. À chaque fois, la leçon à en tirer est que le travail collaboratif entre les citoyens et citoyennes concernées et les associations expertes, les soignants et soignantes, les chercheurs et chercheuses, ont permis de s'assurer que ce qui pouvait être une intuition de cliniciens et cliniciennes s'est révélé être une stratégie essentielle pour les personnes. Faire autrement, c'est perdre un temps précieux, comme d'utiliser les médias en lieu et place de la validation des autres chercheurs et chercheuses. Il y a eu l'exemple de la cyclosporine en 1985, où la pression de soignants et soignantes et chercheurs et chercheuses sur les décideurs et décideuses politiques a conduit à un emballement médiatique aussi vite retombé, car sans suite, sinon le décès des malades traités. L'application des stratégies efficaces est parfois retardée de plusieurs années quand les premiers essais qui veulent vérifier les hypothèses ne sont pas montés de manière rigoureuse. Cela est vrai pour la PrEP, aujourd'hui à l'efficacité prouvée et validée par la recherche en 2014. Au début des années 2000, les premiers essais élaborés étaient éthiquement inacceptables et méthodologiquement bancals. En 2004, les premiers essais ont dû être interrompus. Des années ont été perdues. En 2012, l'intuition de l'allègement des thérapies antirétrovirales a nécessité la mise en œuvre d'un protocole rigoureux. Il s'agit de conclure à rien, il faut donc recommencer. Début de citation. L'étude dirigée par Didier Raoul ne respecte ni les bases éthiques ni la rigueur d'un essai clinique. Les imprécisions et les ambiguïtés sur les conditions de son déroulement la rendent inexploitable en l'état. Il nous est aujourd'hui impossible d'interpréter l'effet décrit comme étant attribuable au traitement à la chloroquine. Fin de citation. A déclaré Dominique Costagliola, directrice adjointe de l'Institut Pierre-Louis d'épidémiologie et de santé publique Sorbonne Université et administratrice de AIDS. Il faut donc veiller à ne pas susciter des espoirs trop grands, allant au-delà des conclusions que l'on peut tirer des données. Il faut aussi tout tenter et pas une seule option, d'où l'essai européen où le choix de l'hydrochloroquine est une hypothèse valable à tester parmi d'autres. Les autres voies thérapeutiques ne sont pas à négliger dans cette recherche. Les personnes séropositives au VIH ou immunodéprimées sont susceptibles d'être parmi les plus exposées au risque de Covid-19, comme toutes les autres personnes vivant avec des pathologies chroniques.
Ce soir, je sors enregistrer les gens qui applaudissent les soignants et soignantes depuis leurs fenêtres et balcons. En bas. Les rues sont presque vides. Presque pas de voitures. Bonjour.
Oui.
Je me cale en bas d'un grand immeuble tout neuf. En haut. Des appartes gigantesques, des baies vitrées, des balcons interminables, des terrasses végétalisées à plusieurs étages et un potager sur le toit. J'ose pas imaginer le prix des appartes. Ah, ça commence à applaudir. En bas. Les bus circulent encore. Trois ou quatre personnes par bus. Ils transportent celles et ceux qui continuent à aller travailler. en haut. On dirait que les bourges pètent un plomb à être confinées dans leur cage à la pointe de luxe. Et si elle pense à celles et ceux qui sont confinés dans les logements pourris, aux personnes confinées avec un conjoint violent, à celles et ceux qui n'ont pas de logement. Est-ce qu'elle pense à celles et ceux qui sont enfermés dans les tôles, les centres de rétention, les hôpitaux psychiatriques, les centres éducatifs fermés, confinement ou non? À celles et ceux qui, dans le quartier populaire d'à côté, vont subir encore plus les violences et l'arbitraire de la police? Est-ce qu'elle pense à celles et ceux qui ne sont confinés que lorsqu'ils ne sont pas sur leur lieu de travail? Aux ouvriers, aux ouvrières qui continuent à faire tourner les machines dans les usines? Ou celles et ceux qui bossent sur les chantiers? Aux travailleuses dans les magasins qui continuent à faire tourner les caisses enregistreuses et à mettre en rayon? Aux conducteurs et conductrices qui continuent à faire fonctionner les transports en commun? À celles et ceux qui font tourner les plateformes logistiques pour que les approvisionnements des magasins dans lesquels ils vont faire les stocks continuent à être faits? Ou encore pour qu'ils puissent continuer à commander sur Amazon? Et au fait, en haut, est-ce qu'ils ont commandé un repas indien sur Deliveroo?
Alors si vous entendez ma voix, c'est que vous êtes toujours sur Radio Sans Nous. On est à une très très bonne organisation dans cette radio, un peu orwellienne. On est en train de refaire un peu la ferme des animaux en studio. Du coup, il paraît que c'est moi qui dois introduire la discussion suivante. Ça nous intéressait de passer ce petit son là parce que c'est quelque chose aussi qui fait débat, qui fait réflexion chez nous. Le soir là, on fait une petite émission à 20h. Dans les premiers soirs, pour celles et ceux qui ont dû écouter, on appelait un peu des fois à les applaudir, tout ça. Et puis petit à petit, certaines se sont dit « qu'est-ce qu'on fait quand on applaudit? Qu'est-ce que ça signifie? Où est-ce qu'on était hier dans les mobilisations sociales? Où est-ce qu'on est demain? Est-ce que applaudir, c'est pas aussi juste dire « j'ai applaudi, j'ai fait ce que j'avais à faire ». Et du coup, il y a ce petit truc là maintenant le soir de lire un peu des projections qui se passent sur les murs, qui sont faites à des endroits là avec... plus des slogans, un peu tout ça, et du coup on voulait profiter là de ce petit son pour réagir et puis pour en causer entre nous, quoi, pour en causer avec vous aussi, pour celles et ceux qui sont sur le chat. Donc n'hésitez pas à balancer des réflexions et puis nous on va s'en emparer un peu aussi, quoi.
Peut-être un des trucs qui gênait un certain nombre de personnes, c'était aussi ce truc de depuis quelques jours, pas forcément au tout début où ça a été lancé, cette histoire d'applaudissement à 20h, mais assez rapidement quand même, ça a été nommé comme un moment de communion nationale, ce qui faisait pas forcément du sens pour une partie d'entre nous. Et en tout cas de dire, en fait, ça veut dire quoi là, ce truc de on est tous ensemble. Enfin, la dernière fois qu'on nous a fait ce coup-là, c'était pour Charlie Hebdo, et ça nous était déjà un peu resté en travers de la gorge, quoi. Du coup, il y a un peu un truc de s'interroger sur quelque chose qui est peut-être parti de gens qui juste voulaient rendre hommage aux personnes qui continuaient à bosser, et notamment aux soignants-soignantes, mais qui a été très vite récupéré par la classe politique. Et du coup, maintenant, il y a un peu une injonction, notamment Macron, il appelle à applaudir à 20h, etc. Et du coup, ça nous parlait moins.
Après, il y a aussi la... Comment dire, la... Les applaudissements sont pas les mêmes en fonction des lieux. Je prends par exemple sur Osé au château ou Nantes Sud sur le Malakoff par exemple, où il y a des applaudissements mais pas que, il y a des percus, il y a du chant, enfin etc. Et on a presque l'impression d'être dans une forme de carnaval avec qui est pas très politisé mais qui pourrait l'être en disant à un moment donné. Il y a une fonction exécutoire et de critique un peu de ce qui se fait. Enfin voilà, en tout cas il y a cette forme là, je trouve, parfois dans l'applaudissement, mais qui n'est pas qu'un applaudissement, quoi, qui est bien au-delà.
C'est sûr qu'il y a un processus, mais comme là celui qu'on est en train de poser nous là, de qu'est-ce qu'on en pense, qu'est-ce qu'on fait, c'est bien un premier mode d'action. Donc je peux commencer à faire ça, et après, si je suis dans du mode de la répétition, ça fait un peu comme les vieux trucs de commémoration de à une époque il y a eu, à une époque il y a eu, et là on n'y est plus, quoi. C'est bien ce truc-là. Bah, du coup, qu'est-ce qu'on en fait, vers où est-ce qu'on va, quoi. Bon, bah, là, du coup, nous, c'est pratique, on a une radio, on en cause.
Il y a aussi des appels qui circulent à plutôt gueuler des trucs dans ce moment-là, de balancer des slogans, de chanter des trucs qui font du sens. Et puis, il y a d'autres appels à créer d'autres rituels, de gueuler aux fenêtres. Il y a notamment un appel à crier à 13h12 tous les jours, par exemple.
Ou le coronavirus are bastards.
Ouais. Et je sais pas, il me semblait, Régis, par exemple, que t'avais
Macron,
un peu de...
Faire ça, non, par contre. Bref.
Ouais, et Macron, là, non. Régis, il me semblait que t'avais un peu des infos sur en Palestine, par exemple, qu'est-ce qui pouvait se passer là-dessus et tout ça.
Ah oui, mais j'ai pas enregistré le son. Mais, enfin, c'est pareil, là, il y a des fêtes qui s'improvisent, mais qui... Et puis, ouais, avec des slogans, enfin, voilà, j'ai des images et des sons sur ma pelouse, par exemple, où... Les gens vont sur les toits et ça commence par la musique, puis après ça commence à... Alors, après c'est en arabe, hein, donc je peux pas traduire complètement, mais dans les gens qui traduisaient, effectivement, ça partait sur des revendications. Et puis parfois de l'humour vis-à-vis des Israéliens qui vivent aussi le confinement en disant tiens, pour une fois eux aussi.
Il y a un truc comme ça, Daïché aussi, là. Alors, je sais pas trop ce que ça va donner. Peut-être que je peux le passer, là. Moi, c'est vers une minute ou deux, je l'ai sur ordi, où on les voit qui font un feu d'artifice le soir avec un DJ, où c'est pareil, ils sont réunis chacune des familles sur leur toit et, feu d'artifice DJ pendant une trentaine de minutes. Et où après, les copains, ils racontaient qu'ils étaient quand même vachement plus organisés aussi sur, des choses qui se mettent un peu en place aussi par ici, mais des trucs de solidarité, là, avec les voisins voisines sur de la bouffe, sur des choses comme ça.
Et enfin, peut-être un des trucs qui faisait débat entre nous sur cet enjeu des applaudissements, c'était aussi que ça pouvait faire du sens à des personnes, elles sont pas forcément là pour en parler, mais d'avoir un moment où il y a un peu tout le monde qui est en interaction et du coup de pouvoir s'entendre et tout ça. Enfin, j'en parle, j'habite à la campagne, donc j'ouvre mes fenêtres pour gueuler, ça, personne m'entend, mais bon.
Bah, par exemple, clairement, à Bouguenay, là, le fait d'ouvrir les fenêtres tous les soirs à 20h, ça fait qu'on crée du lien dans le voisinage, un truc qu'on n'avait pas du tout avant et qu'on aurait pu faire, et ça n'empêche pas de se poser la question des applaudissements, mais de fait, on a rencontré nos voisins et nos voisines, quoi.
Et du coup, je ne suis pas sûr que tout le monde m'entende, enfin, qu'on m'entende, en fait, mais je vais essayer quand même. Si on m'entend, super. Ça produit un truc paradoxal où, enfin, j'ai l'impression que pour des gens, ça a une fonction un peu exutoire, ça a une fonction de rencontre, de lien social, etc. Mais il y a un truc symbolique que je trouve super compliqué quand même, où on se retrouve à applaudir une situation de relatif enfermement quand même, quoi. Alors c'est pas ça qu'on applaudit, mais applaudir dans ce contexte, moi, il y a un truc symbolique qui me fait bizarre, quoi. Et bon, du coup, je suis pas très à l'aise avec ça, mais je vois bien que c'est plus complexe que ça, mais.
Moi, j'aime bien cette idée du processus, là, de se dire, bah, vas-y, on part de là, et puis du coup, on va voir où est-ce que ça va nous mener, quoi. Et bien, ce truc de, il faut bien commencer par un mode d'action, et du coup, ce qui est raconté là sur Bouguenay, du lien avec les voisins voisines, ce qui est raconté sur, on va balancer du slogan, sur, on va commencer à faire de la musique, sur, on va, et du coup, voilà, c'est d'espérer là-dedans, et puis du coup, d'essayer de trouver peut-être des choses pour, comment est-ce qu'on peut nourrir ce moment-là, et puis en faire quelque chose, quoi.
Et puis pour péter le côté rituel où c'est Macron qui dit qu'il faut faire ça à telle heure, même si c'est pas lui qui l'a initié, je trouve qu'il y a un côté marrant. Il y a quelqu'un qui suggérait qu'en fait à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment, d'aller gueuler des slogans à sa fenêtre, ça marche aussi, quoi.
Et nous, on a initié un autre rituel sur Radio Sans Nous, c'est qu'on fait une criée tous les midis. Et du coup, vous pouvez nous envoyer des textes ou des sons et vous nous écrivez et nous crions pour vous.
Ouais, c'est beau, ça, c'est bien quand même.
Ah, on peut mettre une petite musique avant de vous annoncer la suite de la programmation.
Il est 7h du matin, faut se réveiller. Oh, je sommeille. Bon alors, un peu de musique pour se mettre en train. Je sais pas moi, quelque chose comme Talking about my generation. Ouais, c'est pas tout à fait ça. Je trouve plus ma brosse à dents. Quelle passée celle-là encore. La bleue est à mon père, la rouge est à ma mère, la jaune est à mon frère. Vous avez pas vu ma brosse à dents? Tiens, on est lundi aujourd'hui. Ah, pour demain, j'ai un devoir d'anglais. J'aimerais bien avoir Paul McCartney pour m'aider. J'ai envie de mettre un disque pour embêter les voisins qui roupillent toute la journée. Quelque chose comme un bon Elvis Presley. Oh, mais c'est vrai, celui-là, il en est resté. Un peu d'eau sur la figure pour me réveiller. Le dodo, c'est terminé. Je suis presque prête et ça va beaucoup mieux. Je mets mon Shetland rouge ou bien mon Shetland bleu? Mon Shetland rouge? Mon Shetland bleu? Mon Shetland bleu? Mon Shetland rouge? Non, mon Shetland bleu. Mon Shetland rouge?
Voilà, voilà, c'est la fin de notre émission Tournée Générale sur Radio Sans Nous. Je reprends le micro pour vous annoncer les petits points de la suite de la journée. Ce soir à 20h, on lit des histoires et on chante des berceuses et des petites chansons, plutôt à destination des enfants, mais pas que, loin de là. Et ensuite, on écoute un petit chapitre de Harry Potter, c'est aussi un de nos petits rituels. Et à 21h, c'est la soirée scène ouverte pour cette soirée spéciale sur Radio Sans Nous, c'est une première. On vous propose de nous envoyer des sons, de trucs que vous auriez fait, des performances, de la musique, des sketchs, voilà, des blagues. Et on les diffuse et on en discute et puis on peut réagir avec vous via le chat et rajouter des trucs à la programmation via le chat. Voilà. Demain, on se retrouve à 12h30 comme tous les midis pour la petite émission du midi avec Crier, Goulag et autres petites joyeusetés. Et voilà.
If you had to wear my shoes, you'd probably take them off too.